Merci de choisir la station qui prend l'appel le développement Radio de Kiluka. Il est 13h. Reine Fabienne Dotika est avec nous. C'est pour la grande édition. La reine, bonjour.
Bonjour Nina Verdian, bonjour à tous. La publication des résultats provisoires des élections législatives n'est réservée qu'à l'autorité nationale des élections. Une mise en garde de l'institution aux personnes et médias qui publient différentes données. À suivre le porte-parole de l'ANE au début de ce journal. Situation sécuritaire en Centrafrique, une présence massive des éléments de la CPCSI allée depuis Ziranga-Ounda et dans l'ouest du pays. Pour le moment, c'est la psychose qui règne parmi les habitants. Au sommaire également, pour une transhumance sécurisée dans la Haute-Coteau, le service préfectoral de l'élevage a échangé la semaine dernière avec les représentants des agriculteurs et éleveurs et des leaders communautaires. Précision dans ce journal. Basketball, la troisième édition de la Coupe de la Ligue a pris fin samedi avec une nouvelle formule. Des précisions dans la page sport.
L'autorité nationale des élections met en garde les médias et certaines personnes qui publient les résultats des élections législatives partielles et du second tour.
Cette mise en garde intervient après que des publications des données de ces élections inondent les réseaux sociaux. Le devoir de publier les résultats provisoires des élections n'est réservé qu'à l'autorité nationale des élections. Théophile Momokwama, porte-parole de l'ANE au micro de Bonaventure Ngoumba-Katikiro et Déborah Ndoïdé.
Sur les gens qui se déclarent vainqueurs, je voudrais déjà également appeler l'attention des médias parce que depuis cette nuit, je vois sur les réseaux sociaux de larges publications des résultats des élections déclarant des candidats élus. Il ne nous revient pas. La loi, à la limite, et même l'éthique nous interdit de faire ce type de publication. Il revient à l'ANE et la Cour constitutionnelle le monopole de la publication des résultats. Le vote est toute une série d'opérations techniques qui sont liés à des dispositions légales. On peut sortir des bureaux de vote avec des résultats. Mais au final, quand la Cour constitutionnelle va peut-être siéger sur les contentieux, ce ne serait plus le même résultat. Et il est dangereux, je dis bien, il est dangereux dans un État encore fragile comme le nôtre, qui se cherche dans la pacification déjà des esprits, mais également de la vie physique des uns des autres, de pouvoir engager les gens à croire que ces résultats déclarés par les uns et les autres, par les institutions, par des organes qui ne sont pas habilités, ça peut créer des conditions de conflit et de mauvaise interprétation dans les décisions, dans les résultats qui seront rendus provisoirement par l'ANU, ensuite par la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi déjà, vous les professionnels médias, je vous exhorte donc à pouvoir vous soumettre à l'observation stricte de la déontologie de l'éthique en matière électorale dans la diffusion des informations.
Théophile Momokwama, porte-parole de l'ANE dans une conférence de presse ce matin à Bangui.
À Rennes, cette élection d'hier s'est déroulée sans incident majeur, même si des arrestations ont été signalées, notamment à Bangui.
Alexia Félix Yangwandi nous fait le point sur le déroulement de ce vote.
De manière générale, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions dans les centres de vote de la capitale et de sa périphérie. Malgré l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, les électeurs se sont mobilisés pour accomplir leur devoir civique. Herman Gbagula vient de voter au lycée de Miskine.
Je suis très content avec l'organisation pour voter. Ce que je viens pour voter, c'est parce que je suis population et pas que je fais avec mon devoir.
Francine n'avait pas voté au premier tour car elle était encore à l'étranger. Aujourd'hui, elle est contente d'avoir choisi son futur député dans le 4e arrondissement.
Ma satisfaction est très grande parce que je suis venue, je vois le temps est calme. J'ai voté, je suis dans la joie parce que le premier tour des élections, je n'étais pas au pays.
Dans le 6e arrondissement, certains électeurs de la première circonscription n'ont pas été autorisés à voter avec leur récépissé de carte d'électeur. Alban et Benoît font partie de ceux-là.
Au premier tour, je n'avais pas voté parce qu'ils m'ont dit que mes documents sont incomplets. Et aujourd'hui encore, pour le second tour, ils m'ont refusé de voter.
L'autorité nationale des élections n'a pas bien organisé les choses. Moi, je me suis enregistré dans le 6e arrondissement. Ma carte d'électeur, jusque-là, n'est pas encore sortie. Je veux voter, mais je ne peux pas.
Présent sur le lieu, Richard Guérec-Bagba, membre de l'autorité nationale des élections et superviseur dans le 6e arrondissement, répond à ses électeurs.
Le problème, c'est qu'il y a des gens, des électeurs et électrices ici à l'école PTVO qui n'ont pas leur nom sur la liste, mais ils ont des récépissés et veulent voter. Or, cela, ce n'est pas possible. Et j'ai essayé de leur expliquer ça, que c'était ensemble pendant le premier tour, on a fait des réunions. avec les candidats, le vote par récépissé est possible à condition que la personne puisse avoir son nom sur la liste électorale.
Dans les circonscriptions voisines de Bangui, le vote s'est aussi déroulé sans incident majeur, comme le souligne Jean-Séphorien Mapenzi, candidat dans la circonscription de Bimbo 2.
J'ai vu que très tôt déjà dans le bureau de vote dans lequel j'ai voté, il y a eu déjà plusieurs électeurs. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Au premier tour, il y avait quelques manquements sur le plan organisationnel, mais tout a été corrigé et donc je demeure plus que confiant pour la suite.
En dépit de la forte mobilisation des électeurs à certains endroits, des cas de tentatives de fraude ont été rapportés. Les forces de sécurité ont dû intervenir dans certains centres de vote pour amener de l'ordre ou encore mettre la main sur de présumés fraudeurs.
Le journal se poursuit sur Radio Nekeloka. Les habitants de Ngaoundé, dans la préfecture de Limpende, vivent dans la peur depuis hier.
Le renforcement de la présence des éléments de la CPC dans cette ville en est la principale cause. Maxime Lalaye.
Selon des sources locales contactées par Radio Nekeloka, les éléments de la CPC sont massivement arrivés hier dans la ville de Ngaoundé à bord des motos. Ils se sont dirigés derrière l'église catholique où se trouve leur base. Même si pour l'instant aucune exaction n'est enregistrée de la part de ces groupes armés, cette forte présence ne rassure pas la population de Ngaoundé qui continue de vivre dans la peur. Ce matin, certains éléments armés ont pris la direction de Pawa, mais les activités commerciales tournent normalement. La population de Ngaoundé s'inquiète de cette présence armée et appelle le gouvernement à déployer les forces armées centrafricaines dans cette région pour assurer la sécurité de la population. À Bria, dans la Haute-Coteau, un calme règne au centre de la ville. Dans la sous-préfecture de Yalinga, la ville est calme et les élections s'y étaient bien déroulées hier avec un dispositif sécuritaire mis en place par le contingent rwandais de la MINUSCA. À Kagabandoro, malgré la présence de certains éléments des groupes armés de MPC, FPRC, UPC et Séléka Rénové, le vote s'était déroulé dans un climat apaisé, ont rapporté plusieurs sources locales. La population déplore toujours le versement obligatoire des taxes aux rebelles sur la barrière de P4 au quartier Camara, sur l'axe Dekwa.
Merci à vous, Maxime Lalaï.
Rennes, dans le but de garantir une transhumance apaisée et favoriser la libre circulation des éleveurs de la Haute-Coteau, le service préfectoral de l'élevage a échangé la semaine dernière avec les acteurs agropastoraux.
Effectivement, Verdiane, cette rencontre a mobilisé les représentants des agriculteurs, éleveurs et des leaders communautaires. Elle a permis également aux participants de demander au gouvernement de délimiter et sécuriser des couloirs de transhumance, mais aussi de créer des postes de santé animale dans les zones frontalières avec le Soudan. Les précisions avec Gasmala Mustapha depuis Breya.
Des participants ont débattu de long à large des problèmes que rencontrent les éleveurs durant les périodes de conflits communautaires, surtout les mésententes récurrentes et perpétuelles entre eux et les agriculteurs. Adoum Philippe, chef de service préfectoral de l'élevage, déplore néanmoins le non-respect des couloirs de transhumance par les éleveurs.
Les transhumants ne respectent plus ces couloirs-là parce que les groupes de bandits savent que sur cet axe-là, ils peuvent mettre la main sur ces éleveurs pour récupérer leurs bœufs. Et voilà, eux aussi, pour se cacher, ils préfèrent ne plus utiliser ces axes. Donc ça fait qu'ils ont modifié vraiment d'une manière générale les couloirs de transhumance. Ça nous a donné beaucoup de problèmes pour reconnaître leurs traces.
Pour mettre fin à cette difficile cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, les participants ont formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement. Mais que doit faire concrètement le gouvernement? René Valentin Samba, représentant des agriculteurs.
C'est de délimiter des couloirs de transhumance dans la zone de la Haute-Coteau pour empêcher les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. De sécuriser aussi les frontières et de tracer le couloir aussi pour savoir la ligne où les éleveurs passent pour respecter les champs et les biens des agriculteurs.
Amadou Abdoulaye, représentant des éleveurs, qui plaide pour le retour de la paix, appelle aussi à la sécurisation des éleveurs et la vaccination de leurs animaux.
La peine des éleveurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller loin pour paître leurs bœufs. Ils ont peur d'être attaqués par des hommes armés. C'est pourquoi ils sont obligés de rester non loin de la ville pour faire nourrir leurs animaux. Malheureusement, cette situation crée de mésententes entre eux et les agriculteurs. Nous demandons qu'on vaccine les bœufs, qu'on assure aussi la protection des éleveurs pour l'élevage de leurs bœufs.
Ces recommandations ont été remises au service préfectoral de l'élevage pour remettre au gouvernement et ses partenaires. Bria Gasmala Mustapha, Radio Nekeloka.
Autre actualité reine, le procès de Yekaton Mengaissouna reprend ce lundi à la Cour pénale internationale.
Oui, Verdel ouvert depuis le 16 février avec les déclarations d'ouverture. L'audience a repris depuis ce matin avec la présentation des éléments de preuve et des témoins par l'accusation. Inès Lorangopo.
Selon le bureau local de la Cour pénale internationale à Bangui, l'audience reprend ce lundi avec le témoignage d'un marchand musulman. Sa déposition se fera en langue nationale et avec des mesures de protection. Le témoignage va donc se porter sur les attaques qui auraient été commises contre les civils de la communauté musulmane avant l'arrivée de la Seleka. Aussi, l'attaque présumée des anti-balaka du 5 décembre 2013 à Boeing, y compris le meurtre présumé de civils au marché, la destruction de la mosquée de la même localité, l'évacuation du témoin, etc. Alors que le procès reprend aujourd'hui, le bureau du procureur indique que les enquêtes de la cour vont au-delà des élections en République centrafricaine. Selon Amadi Ba, directeur de la section coopération au bureau du procureur, le calendrier électoral ne peut suspendre les enquêtes de la CPI en République centrafricaine.
Les enquêtes se poursuivent, quels que soient les calendriers politiques et les appels à la paix, à la réconciliation. Le bureau du procureur n'est pas le bureau politique. Donc, le calendrier constitutionnel électoral ne peut ni suspendre les enquêtes, ni suspendre les poursuites. Les calendriers de mise en œuvre pour la paix et la réconciliation non plus ne peuvent pas empêcher le bureau de poursuivre son mandat.
Lors de cette phase du procès, l'accusation présentera plus de 6000 éléments de preuve et 150 témoins devant les juges. La défense de Alfred Yekaton Rombo va également faire cette déclaration d'ouverture dans les jours à venir car elle n'avait pas eu l'occasion de le faire à l'ouverture du procès.
Lutter contre la pollution plastique, c'est sur ce thème que la Journée internationale des droits de consommateurs est célébrée aujourd'hui.
En Centrafrique, cette journée est commémorée sous l'angle de lutte contre la pénurie d'eau, le manque d'électricité et la hausse des prix des denrées alimentaires. Selon Amos Vayaswade Salé, l'un des membres de l'association des consommateurs, les autorités doivent toujours veiller à cela afin de satisfaire les besoins de la population.
Chapitre COVID-19 dans ce journal Rennes, la contamination reprend du terrain en République centrafricaine.
Oui, Verdiane, alors que le pays attend d'avoir ses premières doses de vaccin, la courbe de contamination est en progression. Uniquement pour la mi-mars, le pays a déjà enregistré au moins 27 nouveaux cas positifs, dont un mort. Chiffre communiqué par le ministère de la Santé qui appelle la population à l'observation des mesures barrières. Selon les données officielles, la République centrafricaine compte en ce moment 5046 cas positifs, dont 4938 guéris et 64 décès. Entre-temps, le bilan mondial fait état de plus de 120 millions de cas confirmés pour plus de 67 millions de guérisons et plus de 2 640 000 morts.
Ouvrons la page des sports avec le basketball. La troisième édition de la Coupe de la Ligue s'est achevée samedi dernier avec une nouvelle formule.
Tous les clubs ont participé et deux finales ont été disputées au Palais des Sports. Béafrique a remporté la Coupe d'Évolution devant AS Mazanga et Abeille a battu Tandema pour le compte de la Coupe Elite. Les cinq majeurs de cette Coupe de la Ligue 2021 sont Pantelic, Coco Nenji, Thierry-Serge Darlon, Rodrigue Stéphane Kabilo, Emmanuel Nganga et Polygrand Genguina. Guy Maurice Limpio, président de la Ligue de basketball de Bangui, se félicite de l'organisation de cette Coupe de la Ligue. Il est au micro de Bienvenue Bello.
Tout le travail que nous avons abattu depuis 4 ans aujourd'hui est en train de porter ses fruits, tant du côté des athlètes, puisqu'on a vu un niveau de basket quand même assez élevé sur la finale, tant sur les officiels et les OTM. Ça a été aussi le moyen de voir l'ensemble des Centrafricains aujourd'hui revenir au Palais des Sports, donc ça nous a beaucoup fait plaisir. Mais ce qui est important aussi, c'est le gros travail que la Ligue a pu faire aujourd'hui avec les médias, qui nous ont beaucoup accompagnés dans la vulgarisation des informations. C'est tout ce travail-là aujourd'hui qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il faut continuer à alimenter, garder le contact avec tous les acteurs et faire en sorte que le basketball banguissois redevienne à l'honneur, comme on peut avoir un peu au football. Mais nous sommes conscients que nous avons tout un travail à faire avec les clubs, mais également avec les médias et les partenaires. En tout cas, le bilan que nous avons, c'est que nous sommes très contents du retour aussi des partenaires, puisqu'on a vu que Bolloré était à nos côtés, Télécel était là, Badika était là, Orange était là. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental et nous sommes très heureux de cette organisation et de la réussite surtout de cette Coupe de la Ligue.
En football, le nouveau secrétaire général de la CAF et les vice-présidents sont désormais connus.
Le Congolais de la RDC, Véron Moussengo Omba, directeur de la division association membre de la FIFA, remplace le Marocain Abdel Mounaïm Ba au poste du secrétaire général de la CAF. Patrice Motsepe, le nouveau président, a choisi ses 5 vice-présidents, le Sénégalais Augustin Senghor et le premier vice, le Mauritanien Ahmed Yaya, le deuxième vice, le Djiboutien Souleymane Wabiri, troisième vice le Camerounais Seydou Mbombo Njoya, le quatrième et enfin la Comorienne Kaniza Ibrahim, la cinquième vice-présidente.
Ici à Bangui, Rennes, la 14e journée du championnat retour de la Ligue de football démarre demain.
Tout à fait, Verdiane, un seul match à l'affiche. Olympériale de Bangui croisera le fer avec Castel Foot. Mercredi à 13h, JSB va affronter Asopété, suivi du duel à 15h, SCAF Fatima.